Donc on commence en fait cette deuxième partie de la formation avec une orientation plus forte sur la conception d'activités pour l'enseignement ou pour la formation, et avec en prévision la fin vendredi qui est plus axée sur la formation. Donc on a quand même entendu la remarque et la demande hier d'orienter les activités plus vers la formation, mais c'est toujours aussi difficile de rectifier en cours de route par rapport à des choses qu'on a prévues. Donc moi je vais essayer, normalement hein, c'est quand même plus prévu là, conception d'activités et vendredi formation, mais dans l'exposé que je vais présenter, j'ai essayé de pointer les pistes, pourquoi en fait c'était pertinent pour la formation d'enseignants. Et pourquoi on vous a proposé dans cette formation de s'intéresser à la conception d'activités, c'est parce que peut-être qu'on peut se dire c'est pas l'activité de l'enseignant au quotidien de concevoir des activités. En fait, il pourrait pas faire concevoir toutes les activités qu'il met en place dans sa classe. La plupart du temps, en fait, il utilise des choses qu'il a récupérées auprès de ses collègues dans des manuels. Il organise, mais dans une perspective plus théorique, par exemple avec l'approche instrumentale, on a le point de vue que même quand on utilise des choses qu'on n'a pas conçues à partir de rien soi-même, on est en tant qu'enseignant en train d'adapter l'activité pour sa classe, et en fait on est encore dans une démarche de conception et de conception dans l'usage. Donc c'est pas complètement étranger à l'activité de l'enseignant de concevoir des activités. Et par contre, en revanche, dans une perspective de formation d'enseignant, ça nous paraît complètement central de consacrer un temps à concevoir des activités pour ensuite que l'enseignant puisse disposer d'outils pour analyser ce qui lui est proposé et pour modifier ce qui lui est proposé, qu'il a de disponible, afin de l'améliorer dans la perspective d'une utilisation en classe. Donc c'est pour ça que ça nous paraît important de s'intéresser à ça, et qu'ensuite on va vous demander dans la suite de la journée et demain de concevoir vous-même des activités. Alors l'objectif de cet exposé, c'est aussi de montrer comment on peut utiliser des résultats de la recherche pour concevoir des activités, et que même si des fois la recherche se pose d'autres questions qui sont pas complètement pertinentes, il y a quand même des choses qui existent et qui sont utilisables. Et enfin, moi je vais vous faire des propositions dans un cadre assez restreint, mais que je pense quand même pertinent d'une façon plus large. Pourquoi ? Parce que c'est mon passé et c'est mes compétences à moi sur l'utilisation de la géométrie dynamique, et qu'en fait l'introduction d'outils technologiques invite à repenser et à reposer les questions qu'on peut se poser aussi quand on prépare une séance en mathématiques sans forcément la technologie. Peut-être ça les pointe, ça fait une sorte de loupe qui pointe plus fortement les questions. Donc aujourd'hui je vais vous présenter des activités de conception de situation d'enseignement des maths pour les élèves avec la géométrie dynamique, et ça sera un peu dans la discussion de voir comment en fait on récupère les différents éléments que j'aurais présentés pour la formation d'enseignants. Ça sera pas complètement explicite, je regarde Thomas dans mon exposé, mais j'ai essayé quand même de pointer des choses. Alors je voulais partir de deux exemples d'activités pour les élèves qui sont des résultats de recherche qui ont été conçus ou dans des groupes de recherche ou dans des thèses, et mais qui ont été testés en classe et qui ont montré leur pertinence aussi pour des activités de classe, voilà, qui sont bien passées, non seulement superficiellement, le prof, les élèves, tout le monde était content à l'issue, mais aussi on pouvait attester d'un véritable engagement disciplinaire productif et d'apprentissage pour les élèves. Et puis c'était pas surprenant parce que quelque part, quand au moment de la conception, on avait entré dedans fortement des outils théoriques en didactique. Donc la première, c'est Pageron. Donc je vais vous les détailler un peu rapidement. Et le deuxième, certains de vos collègues connaissent Sylvia Couta, qui travaille maintenant à Genève avec Jean-Luc Dorier. Et les deux activités utilisent la géométrie dynamique de façon assez différente. Alors je vais passer à la première. La première, c'est une voiture, s'appelle Pageron, parce que c'est une voiture, vous avez vu tout de suite, et on voit tout de suite qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de roue. Et donc, la première chose qu'on regarde... Alors voilà, c'est quoi cette activité ? C'est une activité contextualisée avec un environnement qui fait que les élèves comprennent assez vite de quoi il s'agit. Il s'agit de refaire la roue qui manque. Et l'activité amène d'elle-même que, en fait, une voiture, ça roule. Et que, bon, c'est un peu bizarre, il faut tirer sur la tâche, ça gêne pas trop les élèves, mais que quand j'ai reconstruit la roue, il faut que la voiture roule. La première stratégie des élèves, c'est de prendre un cercle, c'est la stratégie du garagiste. Le garagiste, il va... Est-ce que vous avez un cercle ? Ouais, moi, j'ai pas un cercle à l'écran, mais... il a pris une roue dans son garage et il remplace la roue. Éventuellement, il la place bien, il l'ajuste. Et vous connaissez, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent la géométrie dynamique. Un des outils qui est utilisé, c'est le fait que l'élève peut valider sa construction et sa production et sa stratégie en déplaçant les objets et que ça doit marcher. Alors, des travaux ont montré que finalement l'appropriation du déplacement n'était pas évidente par les élèves et n'est pas vraiment évidente non plus par les enseignants. Et ça, très localement sur l'enseignement, l'utilisation de la géométrie dynamique en classe, en formation des enseignants, c'est un des objectifs qu'on a, qui est d'amener le rôle du déplacement et faire en sorte que quand l'enseignant utilise la géométrie dynamique dans sa classe, il fasse déplacer les objets. Alors qu'on peut observer des séances entières où les enseignants font rien déplacer. Bon. Donc là, l'élève, il a fait la stratégie du garagiste et puis il voit du tout, tout de suite que ça va pas du tout. Donc c'est une rétroaction de l'environnement qui permet à l'élève de savoir que ça marche pas. Et l'élève, il a envie de déplacer parce que le contexte, en fait, porte cette incitation au déplacement. C'est un contexte non mathématique qui amène l'idée de déplacement. Et puis ensuite, il se dit, mais il faut que ça reste au milieu. Donc, en fait, ce point, faut que je le mette bien. Et puis, je vais trop vite, mais il dit, faut que la roue reste attachée à la voiture. Donc, je vais la mettre bien, comme ça. Hop. Et éventuellement, je bouge un peu mon cercle. Je peux pas. J'essaie de bouger là, voilà. Et je déplace encore ma voiture. Et ça marche pas mieux. Et la clé, en fait. Alors, donc là, l'analyse qu'on fait, c'est les procédures qu'on peut observer et les procédures qu'on va voir chez les élèves et comment elles peuvent évoluer vers la bonne solution. Et la bonne solution, en fait, elle demande à l'élève de passer d'une analyse graphique. Et dans le contexte de la voiture, de la situation, et de le transformer, ces informations graphiques, c'est très bien où il voudrait que le milieu de la roue, là, le centre de la roue, il reste à cet endroit-là. Mais cet endroit-là, s'il le décrit que graphiquement, la géométrie dynamique va pas l'accepter. Il va falloir que l'élève la décrive géométriquement, et c'est là qu'il y a un basculement attendu du travail de l'élève, et la description géométrique de la bonne stratégie, c'est de construire le milieu et puis, à partir de ce milieu, de reconstruire, en fait, le cercle qui passe par deux points diamétralement opposés. C'est long, hein ? Bon. Et donc, ici, pourquoi c'est intéressant ? Et en fait, le rôle de l'analyse a priori, c'est de montrer que les connaissances visées par l'apprentissage sont des outils de résolution de la situation problème. Et donc, la question qu'on peut amener, y compris en formation d'enseignants, c'est quoi les connaissances visées qu'on va pouvoir obtenir avec cette situation ? Et en fait, la connaissance visée, c'est le milieu de deux points, et c'est pas le cercle. Et si on fait une analyse trop rapide, bien sûr que le cercle va être... utilisé au cours de la situation. Mais le cercle, il est mobilisé immédiatement. Et on voit que juste utiliser un cercle, dans le garagiste, la stratégie garagiste, il utilise un cercle, et c'est pas opérationnel, ça permet pas d'avoir une situation valide. Donc les connaissances visées par l'apprentissage à travers cette situation, ça va être le milieu de deux points et la construction d'un cercle passant par deux points diamétralement opposés. Et donc là, on peut montrer comment l'analyse a priori permet de dépasser les premières évidences sur ce que va permettre de travailler la situation avec les élèves. Et ensuite, ça pointe l'importance des rétroactions du logiciel pour la validation. Et vous avez peut-être tous rencontré des situations où l'élève ne voyait pas ce que vous voyez. C'est-à-dire que vous invalidez en déplaçant et ça se passe pas comme vous voudriez que ça se passe en tant qu'enseignant avec votre savoir, mais pour les élèves, c'est pas forcément problématique, et y compris il vous dit bah oui, t'as tout déplacé, t'as tout cassé, bah c'est normal que ça marche plus, hein. Donc là, le contexte amène le fait qu'il y ait une attente du point de vue des élèves et que derrière cette attente, ils vont pouvoir faire le critère entre ce qui leur convient et ce qui leur convient pas et si ça a marché ou pas. Et le déplacement, pour conclure, là, du point de vue de géométrie dynamique, le déplacement ici est utilisé pour valider et invalider les stratégies successives. Dans l'autre situation, du quadrilatère au parallélogramme, c'est très différent. Donc, je vais quand même vous la montrer. Ça saute pas trop. Alors, parallélogramme, coutin, voilà. Et ce qu'on demande aux élèves, et donc vous avez vu qu'il y avait une petite feuille d'activité pour les élèves proposée, c'est on a un quadrilatère. Et vous devez faire en sorte que les points M, qui est le milieu de AC, et le point N, qui est le milieu de BD, coïncident. Donc le contrôle et la manipulation d'élèves va être du côté de déplacer les points, et ça marche assez bien et assez vite, pour faire en sorte que les deux points coïncident. Et indépendamment de toute manipulation, l'élève va pouvoir observer qu'il a obtenu ici un parallélogramme. Alors, c'est une façon très différente de la situation d'avant d'utiliser le déplacement. Donc, lui, ce qu'il doit faire, c'est des constructions et des déplacements. Il doit construire, alors je vous ai construit le quadrilatère ABCD, il construit les deux milieux et il déplace le point C pour que les points M et N soient confondus. Donc, il est dans la construction et le déplacement. Et ensuite, dans un deuxième temps, il doit observer que devient le quadrilatère ABCD. Et donc, dans cette manipulation de la géométrie dynamique, l'élève expérimente la relation de subordination entre, d'une part, je construis, je déplace, je suis dans l'action, et c'est ma volonté qui fait qu'il se passe ça, et il obtient, indépendamment de ce qu'il a voulu faire, comme conclusion, le fait qu'il a un parallélogramme. Donc, en fait, on désymétrise dans cette manipulation avec l'environnement ce qui relève des hypothèses d'une propriété, de ce qui relève de la conclusion. Donc, le rôle ici, la connaissance visée, en fait, qui est sous-jacente derrière, c'est l'idée de propriété géométrique. Et voilà, tous les profs de maths savent que cette idée de propriété géométrique, c'est pas évident pour les élèves en début de collège, même plus tard, et que la distinction de ce qui se passe du côté des hypothèses et de ce qui relève de la conclusion, une distinction difficile à faire. Là, dans l'environnement, la manipulation, l'expérimentation dans l'environnement, on essaye d'attraper ça. Donc la connaissance visée par l'apprentissage, c'est l'objet d'une expérience avec l'environnement, c'est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme et la notion de propriété géométrique. Les rétroactions du logiciel ici, elles valident pas ou elles invalident pas la stratégie, elles permettent de différencier ce qui est de l'ordre de l'activité, de l'action d'élève, de ses choix à lui, de ce qu'il obtient indépendamment de ses choix. Et le rôle du déplacement ici, le déplacement participe à la construction, mais du coup la construction, c'est une construction locale, momentanée, et on rattache ça à l'idée de construction molle. Ça, c'est des travaux. Donc ici, alors voilà, c'est une introduction pour vous montrer des usages assez différents de la géométrie dynamique, mais comment avec l'analyse a priori on arrive à identifier le rôle des connaissances visées par l'apprentissage, le rôle du déplacement. Et une conclusion locale que j'ai écrite en pensant à vous aujourd'hui, c'est en formation d'enseignants sur la géométrie dynamique, un objectif qu'on a, c'est de problématiser ces usages du déplacement. Et en fait, il y a beaucoup d'usages divers du déplacement. Il n'y a pas celui juste pour voir si la construction est robuste, qui est quand même celui qui est le plus immédiatement invoqué, et c'est très bien, c'était là-dessus qu'est partie la géométrie dynamique, mais depuis on a vu qu'il y a d'autres usages, et là on voit qu'il y a deux exemples très différents. Et de façon plus large en formation d'enseignants, on a l'idée d'analyse a priori, qui permet à la fois d'anticiper les procédures des élèves, mais qui permet aussi de cerner le rôle dans la situation des connaissances dont on vise l'apprentissage. Et ici, il y en avait dont c'était des clés pour réussir. C'est pas toujours exactement le même rôle. Éventuellement, si on va trop vite, on peut se tromper de l'enjeu possible avec la situation. La notion de milieu, elle est, on va dire, utiliser la géométrie dynamique, c'est assez intéressant parce que ça matérialise fortement. Alors, le milieu n'est pas l'environnement de géométrie dynamique, mais ça donne une première entrée sur un milieu là qui paraît dont on peut discuter avec les enseignants, et surtout la dimension rétroaction du milieu, et là on commence à pouvoir le travailler assez fortement. Voilà, et la notion de rétroaction qui permet l'évolution des stratégies de l'élève. Mais toutes les situations utilisant la géométrie dynamique sont pas pertinentes, et en fait ce qui se passe, c'est que bon, on a un travail avec assez important avec Yana Traglova sur les situations d'enseignement de la géométrie dynamique au niveau européen, et on voit toutes sortes de choses dont l'analyse assez immédiate et pas montre que c'est pas forcément complètement abouti et complètement pertinent. Et notre expérience fait qu'on a pas mal de gens qui viennent nous voir pour nous demander voilà de regarder avec eux ce qu'ils font avec la géométrie dynamique. Et voilà, je vais vous montrer des exemples de ce qui est apporté, comment on travaille avec donc ces formateurs d'enseignants ou ces enseignants pour faire évoluer les choses qui nous sont proposées et comment on amène à des choses qu'on considère plus pertinentes et pas parfaites. Et je voulais le signaler tout de suite, aucune des situations qu'on propose n'est une situation parfaite au niveau théorique, mais quand même des choses qui sont plus pertinentes par rapport à nos critères de didacticien. Premier exemple de conception, c'est une situation de modélisation. Et je trouve que c'est intéressant par rapport à un des objectifs de la formation qu'on n'a pas forcément beaucoup travaillé et qui nous a été amené par une collègue d'Argentine qui a développé tout un site web pour former les enseignants à l'utilisation de la géométrie dynamique en Argentine. Le site s'appelle Patrulla de Rescate. Vous excusez, moi je parle pas du tout espagnol, mais ça veut dire patrouille de secours. Et l'idée, le dispositif de formation des enseignants, c'est un dispositif en ligne parce que l'Argentine c'est très grand et les gens sont loin les uns des autres. Et d'abord, il y a 2 mois de formation des enseignants à l'usage de la géométrie dynamique et aussi de formation à la géométrie, avec des cours en ligne et des petits livrets d'activités que les enseignants doivent parcourir, et ils se retrouvent en ligne pour discuter et réaliser des petites activités. Et ensuite, dans un deuxième temps, les enseignants qui ont fait la formation, ils inscrivent leur classe à une espèce de concours ou de jeu commun qui s'appelle justement un jeu de simulation où chaque classe doit réaliser une succession d'activités avec la géométrie dynamique. Et après, on élit à la fin de la session, ça dure aussi 1 ou 2 mois, quelle est la classe qui a le mieux réussi les activités. Et le contexte, c'est celui d'expéditions de sauvetage qui vont sauver des enfants qui sont dans des situations plus ou moins difficiles dans la montagne. Voilà. Il y a toute cette construction pour la formation des enseignants qui éventuellement pourrait être discutée. Mais moi, je vais retirer à l'intérieur juste la situation du lac qui était proposée comme une des situations challenge pour les classes des enseignants impliqués dans cette formation. Et l'idée, est-ce que vous voyez, c'est assez grand, c'est pas très bon. Hein. Vous avez une montagne, un lac, un enfant dans un canot au milieu du lac, il a plus de rame. C'est ça la situation telle qu'elle est décrite. Et 3 personnes arrivent au bord du lac pour le secourir. Et la question, c'est quelle est la personne la plus proche de l'enfant ? La personne au bord du lac, la plus proche de l'enfant. Et c'est ça qui est donné à la classe comme challenge en utilisant la géométrie dynamique. Et ce qui se passe, c'est que la première analyse, c'est que implicitement, on attend que le lac soit modélisé par un cercle. Voilà, bon. Deuxièmement, l'enfant est un point à l'intérieur du cercle. Et les 3 personnes sont représentées par 3 points sur le cercle. Ensuite, ce qui est attendu, et quand on a discuté avec la formatrice qui a organisé ça, ce qui est attendu, c'est que en fait, on détermine le point qui est le plus proche. Vous voyez, c'est assez gros. L'élève, je vais peut-être vous le mettre avec la géométrie dynamique. Le lac, voilà. La suite. Et donc, l'idée, c'est qu'on va faire des médiatrices et on va savoir avec médiatrices, par exemple, médiatrices de A et de B, bon, ben, on sait que l'enfant, il est plus près de B que de A. Puis on fait médiatrice de B et de C. Puis on sait que l'enfant, il est aussi plus près de B que de C, donc on a résolu le problème. Et donc, la question qui arrive, c'est en quoi c'est intéressant d'utiliser la géométrie dynamique là ? Et là, on fait un dessin papier, on fait une photocopie qu'on distribue et tout le monde a résolu le problème. Donc, ça paraît extrême, mais c'est voilà, à la base ce qui était proposé et comment c'était organisé. Donc, la question, c'est comment à partir de ça, on construit des outils et on fait bouger les choses de façon à aller vers une situation qui serait plus pertinente. Donc, voilà, quel joue le rôle du déplacement pour résoudre ce problème ? Aucun. Comment transformer le problème pour rendre nécessaire le déplacement ? Et la première transformation, c'est que, en fait, une des personnes qui est au bord du lac, elle peut bouger. Et que donc, où placer la personne voilà, qui va se déplacer au bord du lac pour être la plus près de l'élève ? Et là, du coup, on commence à pouvoir essayer de déplacer des objets, d'amener le déplacement, et on voit qu'il y a plein d'autres stratégies qui vont pouvoir être possibles. Et la première qui va être, par exemple, c'est de rechercher, alors suivant les cultures des pays, on a travaillé ça aussi avec des collègues en italiennes, il y a des notions mathématiques qui sont plus ou moins disponibles. Et l'idée de cercle tangent, c'est un outil pas très travaillé en France, mais par contre dans d'autres pays qui est très disponible. Et donc on voit qu'avec les idées de cercle tangent, on peut amener l'élève. On peut avoir d'autres stratégies de résolution et en plus des stratégies qui peuvent permettre, par exemple, à l'enfant de bouger à l'intérieur du lac aussi. Et voilà, donc une des stratégies consiste à travailler avec les cercles et de dire, si je trouvais le point où le cercle et les deux cercles sont tangents, le cercle, ça me permet d'avoir un rayonnement du plan. Tous les points qui sont à l'intérieur sont plus près de l'enfant. Tous les points qui sont à l'extérieur sont plus loin de l'enfant que les points qui sont à l'intérieur. Et si on a, j'ai perdu mon cercle. Donc si on a un cercle ici, par exemple, on peut voir que, si je le trace comme ça, on peut voir que tous ces points-là du cercle-là qui sont à l'extérieur sont plus loin que tous ces points-là. Et si je déplace ce cercle au moment où je l'ai tangent, je vais pouvoir avoir trouvé le point du bord du lac le plus près de l'élève. C'est pas forcément des stratégies immédiate, évidente, mais dans la manipulation des objets par les élèves, c'est des choses qui vont arriver. Et puis derrière, on va pouvoir aussi avoir les points d'intersection des deux cercles, et puis des constructions de médiatrices et des évolutions vers des stratégies plus ou moins robustes. Donc là, il y a toute une analyse a priori qui permet de montrer qu'on a des stratégies qui utilisent plus le dynamisme, juste en reformulant la question. Et en changeant la question. Et les connaissances qui vont arriver, c'est sur le cercle, les propriétés des cercles tangents et les médiatrices. Dans notre analyse a priori, c'est les choses qu'on a trouvées qui permettaient d'avoir une stratégie gagnante. Et si le lac, et après on peut se dire, on va changer toutes les variables. Pourquoi on a modélisé le lac par un cercle? Et en fait, la suivante, c'est qu'on propose éventuellement de modéliser le lac par une ellipse. Alors, on va se dire, ah mais une ellipse, c'est pas au programme des petites classes. Mais ça dépend quels sont les types de stratégies qui vont être utilisées pour résoudre le problème. Et en fait, on a des stratégies qui peuvent être accessibles, même si le lac est une ellipse, à des niveaux bien plus bas. Je ne vais pas vous faire tout le détail, mais on montre dans l'analyse a priori que sur le lac, on a des stratégies concurrentes qui sont cercles tangents et médiatrices, et que quand on passe à l'ellipse, on n'a plus que les cercles tangents à l'ellipse qui sont localement utilisables et les stratégies médiatrices ne sont plus mobilisables. Donc avec l'analyse a priori, on montre comment l'enseignant peut contrôler dans les situations qu'il propose et avec le jeu des variables, les types de connaissances qui vont être pertinentes et utilisables jusqu'au bout dans les stratégies des élèves. Donc ça ne va pas être un éventail aussi complet par rapport aux stratégies possibles au départ, et on arrive, en changeant les variables, à amener la classe vers une même solution, en tout cas la légitimer. Un autre exemple dans le même site, c'était des situations proposées par les enseignants qui étaient en formation. Là, la première situation, c'est une situation proposée par la formatrice. La deuxième, c'est une situation proposée par un enseignant. Et le point de départ, c'était une jolie... Alors, je n'ai pas tout à fait la même construction. C'est l'idée de construire un triangle avec trois angles. Et c'est dans le mot « triangle », mais en fait, on ne le fait pas. Alors, je vous la montre, la situation finale. Mais je vous l'explique parce que avec le Mac, on n'a pas tous les mêmes outils qu'avec un PC. Activité triangle initiale. Voilà. Et donc, on a un triangle qui est recomposé avec trois faisceaux d'angles. Et en fait, il y a trois boutons. Et on appuie sur le premier bouton et on voit un premier angle se dessiner. On appuie sur le deuxième bouton, on voit un deuxième angle juste bien positionné. On appuie sur un troisième bouton, on voit le troisième angle, et la question posée aux élèves, c'est « Quelle figure bien connue reconnais-tu » Donc l'élève, qu'est-ce qu'il dit ? Triangle. Et voilà la situation utilisant la géométrie dynamique. Au niveau construction en géométrie dynamique, pour le prof, c'est compliqué à faire avec les outils qui étaient proposés. Mais au niveau activité pour l'élève, c'est pas forcément... Enfin, voilà, la première réaction, c'est dire c'est très statique pour l'élève. L'élève, il est amené à répondre ça. Qu'est-ce qu'il a compris de « Oui, trois angles pour avoir un triangle ?» Et donc... Comment est-ce qu'on reformule, sur quelle clé on reformule cette situation pour, à partir de cette idée, construire une vraie activité pour les élèves. Et la connaissance visée, alors ici, on l'a reconstruit à l'envers, c'est-à-dire ce n'est pas une analyse de la situation telle qu'elle était qui permet d'identifier la connaissance visée. On s'est dit, pourquoi avec trois angles, on obtient un triangle ? Parce que la somme fait 180 degrés. Puis si on n'a pas une somme des trois angles qui fait 180 degrés, on n'obtiendra pas de triangle. Donc on s'est dit qu'on allait faire travailler les élèves sur cette idée-là. Et donc la première activité, c'est proposer aux élèves des triplés d'angles dont certains font 180, la somme fait 180, et certains ne font pas 180, et ils vont manipuler et déterminer s'ils peuvent obtenir ou pas les triangles, et donc aller de là aux conditions qui fait sur quel triplé je suis sûr que je vais obtenir les triangles et sur lesquels je ne vais pas les obtenir. Donc l'activité des élèves, elle est beaucoup plus ouverte. Il faut qu'ils déplacent les angles, mais ça, c'est juste, manipulatoire. C'est comme si on les faisait découper. Par contre, en déplaçant les angles, qu'est-ce qu'on rencontre ? C'est qu'il faut quand même que les sommets soient sur les côtés adjacents, et puis que finalement, il y a des angles, des triplés d'angles qui fonctionnent, ou d'autres qui ne fonctionnent pas. Et donc, on amène le travail des élèves sur identifier les conditions qui font que j'obtiens ce que je veux. Et ça, c'est une clé, en fait, pour la géométrie dynamique, qui marche assez fortement et qui peut être réinvesti dans d'autres situations. Amener les élèves à chercher les conditions qu'il faut qu'on obtienne, qu'il faut avoir pour obtenir quelque chose qui est donné. Et donc c'est quelque chose aussi en formation des enseignants qu'on peut récupérer et qui est généralisable. Alors, là, ouais, j'arrive bientôt au bout du temps. J'ai encore une situation. Cette situation-là, elle est complètement différente. Elle n'est plus dans le schéma de formation qu'on avait pris en Argentine. C'est une situation qui est issue d'un groupe de l'IREM de Lyon. Et quand j'ai découvert à travers un article, je regarde mes collègues IREM de Lyon, qui est publié dans la feuille à problème, c'était explicité l'espèce de démarche qu'on veut avoir en formation, c'est-à-dire on part d'une situation qui est apportée et qui est comme elle est et qui a sa potentialité mais ses limites, et on regarde comment on fait pour la transformer, nous, pour introduire la géométrie dynamique, mais éventuellement avec d'autres critères et d'autres clés pour la formation des enseignants. Et le problème de départ, eux, c'était un problème en papier-crayon qu'ils avaient pris, je crois, dans des accompagnements de programmes ou des choses comme ça, donc un truc assez classique. Et le problème, c'est on donne un cercle de centre haut, on a MN qui est un diamètre et PQ qui est un autre diamètre perpendiculaire, on a A et B des points du cercle, on construit les rectangles formés avec les deux diamètres perpendiculaires, donc d'un côté le rectangle OKBL et de l'autre côté le rectangle AIOJ, et puis on prend une diagonale de ces rectangles, et je vous dis à vous, qui n'est pas le rayon du cercle, l'autre diagonale étant le rayon du cercle, et on demande quel est le plus long des segments entre IJ et KL ? Et ça, c'est quand même déjà assez joli, c'est qu'on demande le plus long, alors que dès qu'on a résolu le problème, on sait qu'ils ont même longueur, ces deux segments. Donc, une façon très classique de poser le problème, ça serait de dire, montrer qu'ils ont la même longueur. Donc là, on met tout à plat, il n'y a plus de problème. Mais là, on demande quel est le plus long. Donc, au moins, dans le raisonnement, l'élève, il y aura quand même quelque chose de surprenant à résoudre. Et donc, on reviendra aussi sur cette idée. Et la première chose qu'ils ont faite en transformant pour la géométrie dynamique, ils ont construit ou fait construire en partie la figure aux élèves en géométrie dynamique avec les deux points A et B qui se baladent. Et l'analyse a priori montrait qu'il fallait connaître l'idée de diagonale, rayon d'un cercle, transitivité de l'égalité, puisqu'on cherche à voir lequel est le plus grand et qu'on obtiendra qu'ils ont la même longueur. Et puis concevoir la clé de la résolution de ce problème, c'est le fait d'arriver à concevoir la diagonale AO à la fois comme une diagonale du rectangle et comme un rayon du cercle. Et c'est parce que cette diagonale a même longueur que cette diagonale est un rayon, donc elle a la même longueur que l'autre rayon, et que l'autre rayon dans le rectangle à nouveau a même longueur que l'autre diagonale, est à une diagonale à même longueur que l'autre diagonale, qu'on fait passer le résultat. Les stratégies des élèves avec la figure de géométrie dynamique. Avec telle qu'elle a été proposée, c'est-à-dire qu'on met en géométrie dynamique. Ah non, zut, je ne vous ai pas mis toutes. La première stratégie, ils avaient les deux rectangles, c'est qu'est-ce qu'ils font ? Ils baladent les deux points, ils font superposer les deux rayons. Les deux diagonales, elles ont même longueur, ils regardent et hop, c'est fini. Donc finalement, ils ont expérimenté. Donc les stratégies des élèves avec la géométrie dynamique, c'est faire superposer les deux rectangles, éventuellement mesurer une diagonale du rectangle et constater si sa mesure est constante au cours du déplacement. Mais ça ne les surprend pas beaucoup. C'est constant. Et en fait, un des problèmes avec la géométrie dynamique, c'est que ce que nous, on va percevoir comme étant surprenant parce que ça ne bouge pas et c'est constant, n'est en fait pas une surprise pour les élèves. Et quelque chose, a priori, que les choses ne changent pas et ne bougent pas, est plutôt quelque chose d'attendu que d'inattendu. C'est parce que nous, on projette des connaissances et on se dit qu'éventuellement, ça va changer, qu'on est surpris, mais c'est parce qu'on a des connaissances qui sont bien plus larges que celles des élèves. Donc, ils mesurent les deux diagonales, ils constatent l'égalité des longueurs, fin du problème. Et ils ne cherchent pas à démontrer. Donc, la conclusion, c'est que les deux rectangles ne sont pas utiles en géométrie dynamique, puisqu'on fait les superposer, et puis finalement, ils mesurent et ils voient que quand ils tournent, ça ne bouge pas. Et que pour mesurer, on peut mesurer sur du papier crayon aussi. Donc, on n'a pas apporté beaucoup de choses en introduisant la géométrie dynamique. Et voilà, et des comptes rendus d'expérimentation. Dans Cabri, de toute façon, les élèves, ils mesurent tout. Donc, ils vont mesurer tout ce qui est possible de mesurer. Et donc, ils tomberont sur ces mesures égales. Il y a certains élèves quand même qui remarquent que les rayons ont même longueur que les deux diagonales, mais ça fait pas forcément tilt, ou ça le fait que pour certains élèves. Et que quand il y a deux rectangles, ça complique l'interaction à la fois avec l'environnement, parce qu'après quand ils sont superposés pour attraper les choses, c'est pas facile, et ça complique l'interaction en classe ensuite. Donc, et là enfin, les élèves restent au constat. Donc la deuxième idée, c'est d'avoir qu'un rectangle, puisqu'on peut le déplacer, et montrer que ce rectangle, alors c'est peut-être plus surprenant que sa diagonale. Qu'est-ce qui se passe? Donc faire une conjecture à propos de la longueur IJ quand A se déplace sur le cercle C. Ensuite, c'est la nouvelle formulation, faire sur le cahier un schéma qui illustre cette conjecture, et qu'est-ce qui permet d'affirmer, de prouver l'affirmation énoncée dans la conjecture. Et en fait, les élèves, ils justifient par la mesure, la diagonale mesure toujours 4 cm, ce résultat n'intrigue pas les élèves, et donc le passage à la preuve est un coup de force de l'enseignant, on ne peut pas l'obtenir. Donc il faut que, en fait, la conjecture puisse apparaître comme surprenante, interrogeant l'élève. Et pas comme un fait indiscutable obtenu, voilà, c'est comme ça, et du coup, si c'est comme ça, bah, très bien, on le retient ou on le retient pas, mais on n'amène pas de preuve. Et donc la dernière transformation qu'il fait, c'est déconstruire l'évidence que la diagonale est constante. Et pour déconstruire l'évidence qu'elle est constante, c'est qu'il faut sortir le point A du cercle et demander à nouveau, comme dans le cas précédent pour les triangles, faire porter l'interrogation non pas sur qu'est-ce qu'on observe qui est donné, mais faire basculer l'interrogation des élèves et la question posée sur qu'est-ce que je dois faire pour être sûr d'obtenir cette longueur constante. Donc il faut que la grandeur soit variable et qu'elle soit constante à certaines conditions et que la question porte sur les conditions. Donc la question nouvelle, c'est où placer A pour que JI ait une longueur constante donnée. Et là, le problème est complètement différent. On va partir d'un rectangle dont on a la diagonale. Alors là, j'ai changé parce que dans mes schémas, bon, il y a eu plusieurs versions et les expérimentations ont changé. Mais maintenant, la diagonale, c'est PN, c'est plus IJ, mais vous la reconnaissez. On la coince à 5 cm, mais on la coince pas vraiment, et on déplace M. Et où est-ce qu'il faut mettre M pour être sûr que la diagonale fasse toujours 5 cm? Et alors là, on se balade dans l'environnement, et on a pas mal de problèmes quand même. Donc le final, voilà, donc je peux mesurer que MN, distance de ce point à ce point, bon, on va dire qu'on va la garder à 9 cm, et j'ai beaucoup de chance de savoir à peu près ce que je veux chercher, parce que sinon, bon, je dis 9,4, oh, je suis assez contente. Et la stratégie, c'était de faire des pâtés. Quand j'ai une position qui m'intéresse à peu près, je fais un pâté, parce que finalement, après, si je sais pas du tout où je dois aller, je mets des points rouges absolument de partout. Il n'y a aucune raison que j'obtienne le cercle. Par contre, si j'en trouve une, ah, j'en ai un autre, alors là, je fais un pâté. Puis je cherche, puis moi, je cherche à peu près, pas n'importe comment. Ah, j'avais un 9 à peu près par là. Et donc, je fais, voilà, j'ai un autre 9, non, pas du tout. Ah, là. Donc, je fais un autre pâté. Et les élèves cherchent et obtiennent petit à petit une représentation qui correspond voilà, à la troisième avec des pâtés et obtiennent quelque chose qui est de l'ordre du cercle. Et là, ils sont vraiment surpris. Et là, ils ont vraiment envie de savoir pourquoi ça fait un cercle. Donc, ça ne veut pas dire que la preuve, ils vont la trouver, parce que la preuve, elle reste complexe avec ce changement de point de vue sur la diagonale du rectangle qui est aussi un rayon du cercle. Mais la preuve apparaît comme une explication à ce phénomène qu'ils ont rencontré. Donc, on amène en fait une nécessité de la démonstration. Il y a plusieurs raisons à la démonstration, mais amener la démonstration comme un moyen d'expliquer quelque chose qui a été observé et qui est surprenant, en fait, la rend beaucoup plus intéressante et mobilisatrice pour les élèves. Donc, je vais m'arrêter là. Je passe tout de suite à la conclusion. J'avais une dernière boîte noire qui était le sourire et qui était utilisée, effectivement, dont on a montré comment, avec les élèves, je trouvais que c'était pas forcément pertinent. Par contre, comment on peut l'utiliser pour la géométrie dynamique avec les enseignants, de façon à déconstruire pour les enseignants un des schèmes a priori de dépendance entre points qui est un des clés pour utiliser la géométrie dynamique. Je saute parce que je suis en retard. Hop. Et je vais à la conclusion sur les outils théoriques et méthodologiques pour la conception d'activité. Et là, ces outils, en fait, vous allez voir qu'ils sont plus génériques, ils ne sont pas complètement liés à la géométrie dynamique. D'abord, et en fait, ces outils, ça va être plutôt mes objectifs, moi, en tant que formatrice enseignant, mes objectifs de formation que je vais avoir et dont les activités que je vais proposer vont permettre de déboucher dans la mise en commun sur ces objectifs-là. Premièrement, la connaissance visée par l'apprentissage doit être un outil de solution et un outil auquel on ne peut pas trop échapper si on veut arriver à la solution du problème posé. Et pas un outil j'avais vu que finalement le cercle, dans la première situation, c'est une situation pour travailler le cercle. Et en fait, si j'analyse, je vois que le cercle, on va l'avoir tout le temps, mais c'est pas problématique. Et que là où va être la discussion, c'est construire le milieu pour avoir le centre du cercle le centre au milieu du diamètre. Ensuite, une méthodologie d'analyse des situations proposées et de leur évolution qui est issue du concept de situation adidactique. On a très fortement ancré de ce côté-là. Et l'élève doit mettre en œuvre une procédure de base qui ne permet pas de réussir. Donc ça veut dire que quelles connaissances nécessaires sont mobilisables au début ? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Et ça veut dire que mon objectif d'apprentissage, c'est pas qu'il fasse ce qu'il peut faire dès le début de façon non problématique. Et ensuite, l'élève doit obtenir des feedbacks qu'il peut comprendre et qui ont du sens pour lui, et pas des feedbacks que seulement le prof peut interpréter, qui lui permettent d'invalider sa procédure de base et d'en changer. Donc, comment l'élève peut-il savoir qu'il a réussi indépendamment de l'enseignant ? Et le fait des changements de stratégie, moi, je dois dire que c'est une des choses les plus difficiles. Et que dans les situations qu'on a observées, on s'aperçoit que les élèves arrivent à changer une fois de stratégie. Quand ils en ont choisi une, ils arrivent à modifier une fois. Mais quand ils ont changé de stratégie, c'est déjà un tel pas pour eux que ce qu'on se rend compte, c'est que s'il faut qu'ils changent deux fois, eh ben, en fait, ils n'y arrivent pas. Donc ça pose la question de la robustesse de ces situations pour amener tous les élèves à la stratégie gagnante. La solution en fait actuelle, c'est que quand ils ont changé de stratégie mais ils n'y arrivent pas, quelque part ils ont quand même une compréhension du problème et de l'insuffisance de ce qu'ils ont fait tel et une demande suffisamment forte pour que quand la stratégie est proposée par les autres élèves, voire même par l'enseignant, alors elle vient percuter une vraie question d'élève. Il y a eu une problématisation, et je pense, Patrice, t'avais dans tes diapos un moment en disant il faut problématiser, et qu'il y a eu une vraie problématisation de l'élève. Donc même si la solution elle vient pas de lui, au moment où elle est apportée, elle répond à une vraie question, et donc elle a quand même de la plus de chances d'être comprise et réutilisable ensuite. Voilà. Et est-ce que la connaissance visée est nécessaire pour réussir ? Est-ce qu'elle est incontournable pour réussir l'activité ? Le rôle de l'analyse a priori, c'est d'identifier les procédures de résolution possibles et les connaissances mobilisées dans ces procédures, les caractéristiques de la situation qui bloque ou favorise les différentes procédures, et donc ensuite comment je peux jouer sur cette situation pour la modifier, et les rétroactions qui permettent de valider ou invalider les procédures. Voilà. Et ma dernière diapo, c'est les outils théoriques. Les critères propres à la géométrie dynamique, moi j'en remets une couche, c'est un peu mon truc, la géométrie dynamique. Je me rends compte que même si maintenant tous les profs de maths savent ce que c'est, ça ne veut pas dire que c'est toujours utilisé de façon aussi pertinente qu'on voudrait. en classe. Et un problème papier-crayon, c'est pas forcément un bon problème pour la géométrie dynamique, mais c'est par contre quelque chose qui est assez... voilà, on a des chouettes problèmes et on a envie de voir comment on pourrait... Il y en a qui paraissent pouvoir être intéressants avec la géométrie dynamique, et donc amener les enseignants à se poser ces questions, comment je transforme mon problème pour introduire la géométrie dynamique, c'est un outil de formation important. C'est, alors, c'est quoi l'apport de la géométrie dynamique ? Est-ce que c'est seulement avoir des figures plus nombreuses et plus précises ? Et ça, c'est le premier argument qui est sorti. Donc, en formation d'enseignants, ça veut dire qu'il va y avoir un moment où il va falloir expliciter qu'est-ce que ça apporte la géométrie dynamique dans cette situation. Et qu'il faut savoir que, normalement, la moitié de votre public, au moins, va dire des choses qui se rattachent à « j'obtiens beaucoup de figures très facilement ». Et j'ai des figures plus propres et plus précises sur lesquelles je peux mesurer. Et puis derrière, on sait, nous, que ça va poser des problèmes. Et donc en formation, en tant que formateur, comme en tant qu'enseignant, ça veut dire que je m'attends à ça de mes enseignants et qu'il va falloir que je les amène un pas plus loin avec un environnement véritablement pour expérimenter, donc qui permette de problématiser les situations et quel est le rôle du déplacement dans les activités des élèves. Parce que c'est pas évident qu'en fait, dans les activités proposées, le déplacement soit plus que obtenir plein de cas. Et si c'est juste obtenir plein de cas, vous avez 30 élèves, vous faites 30 dessins différents, vous aurez 30 cas différents, et donc on les aura, les 30, à discuter. Donc faut peut-être aller au-delà de là. Est-ce que le rôle des déplacements permet de poser le problème ? On a des problèmes qui n'ont du sens, et là je voulais pas montrer le sourire, les boîtes noires, n'ont du sens qu'avec la géométrie dynamique. Le problème peut plus exister si on est papier-crayon. Est-ce que c'est le déplacement utilisé pour chercher la solution ? On a vu dans le lac avec déplacer des cercles, essayer de faire des constructions, de trouver. Ou est-ce que le déplacement est utilisé pour valider ? Et c'est encore un autre usage du déplacement. Et le dernier point, moi je pense que c'est le cœur des situations à concevoir, problématiser. Comment on fait pour passer d'une activité où l'élève doit constater un phénomène ? Ce qui est la majorité des activités utilisées et présentées qu'on trouve sur Internet, qui se produit indépendamment de son action ou quasiment, c'est-à-dire on a pressé trois boutons, vous avez beaucoup d'activités avec des curseurs, hop, on a tiré le curseur, 1, 2, 3, qu'observez-vous ? Et donc c'était intéressant de revenir dans la démarche expérimentale, tu as manipulé, ouais super, qu'observes-tu ? Et donc voilà le schéma classique. En fait, non problématique pour l'élève. Ouais, j'ai observé un triangle, ou des fois, oui, mais lui, il n'a pas du tout observé que c'était intéressant que la diagonale reste constante. Nous, on se dit, ah, super. Lui, il se dit, ouais, c'est comme ça. Et donc, faire porter, voilà, une des clés, hein, c'est restreint finalement, faire porter les questions sur les conditions pour obtenir plutôt que sur ce qu'on obtient en conclusion indépendamment de son action. Et est-ce qu'on arrive à avoir une situation où l'élève n'obtient pas ce qu'il attend ? Et là, c'est assez marrant parce que sur l'usage des technologies, au niveau de développement des interfaces, on essaye pour que l'utilisateur puisse utiliser facilement la technologie, il faut la plupart du temps qu'il obtienne ce à quoi il s'attend. S'il obtient trop de choses qui sont en rupture par rapport à ses attentes, au niveau de l'interface, c'est pas considéré comme bon. Par contre, au niveau d'une séance d'une situation d'enseignement, il faut amener par moment l'élève à obtenir quelque chose qui est en rupture par rapport à ses attentes et qui va générer en fait motiver la recherche d'une preuve comme une explication. Il est convaincu que c'est vrai. Donc la preuve n'est pas pour montrer la validité de l'assertion. Parce que dans la classe, ils sont assez fortement convaincus que c'est vrai. Mais par contre, ils sont surpris. Pourquoi ? Ils ont besoin d'une explication et la preuve, c'est un autre aspect de la preuve, amener la preuve pour expliquer pourquoi on obtient le phénomène. Donc voilà, j'ai terminé là, je suis 45 minutes, c'était bon. Et bon, j'espère que je vous ai essayé de montrer d'abord des clés de conception d'activité qui vont être à la fois assez générales, je suis sûre que vous les avez, vous les mobilisez déjà et vous les utilisez. Comment avec la géométrie dynamique, en fait, c'est une entrée assez... je dirais efficace, hein, en tout cas qui paraît fonctionner pour questionner, mais comment derrière, avec d'autres outils, on va se retrouver avec les mêmes idées qui fonctionnent assez bien pour modifier les situations et les rendre plus intéressantes, je dirais, pour les élèves, permettant un vrai engagement disciplinaire productif. Voilà.